Renew. Le dispositif gouvernemental Mon Leasing électrique est terminé. Mais chez Renew, la voiture électrique à moins de 100 euros par mois, ça continue. Profitez de Renault Zoé E-Tech 100% électrique d'occasion à partir de 99 euros par mois. Renew, véhicule d'occasion toute marque, reconditionné et certifié. Zoé Life 52 kWh, LLD 37 mois, 30 000 km. Premier loyer 1584 euros après déduction, prime à la conversion. Voir service-public.fr. Offre à particulier jusqu'au 30 avril. Si à Cordiac, voir fr.renew.auto. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
RMC jusqu'à 8h. Vos animaux. François Sorel, Laetitia Barlerin.
Il est 7h09. C'est RMC, c'est le week-end des experts et c'est les animaux. Tous les dimanches, 6-8, notez-le sur vos tablettes. Un rendez-vous exclusif RMC, 2 heures entières, donc dédié aux amoureux, aux passionnés des animaux, avec notre vétérinaire, la douce, l'agréable, la charmante Laetitia Barlerin.
Oh, que c'est gentil. Oh, ça fait du bien le dimanche matin, là.
D'accord. Et ça vient du cœur, en plus. Oh. Laetitia, pour cette deuxième partie dédiée aux animaux, tout à l'heure, on va parler des mammifères avec des petites anecdotes étonnantes. On va aussi s'insurger contre cette pratique, espérons-le, pas forcément régulière, d'animaux dans des boîtes de nuit amuser la galerie, on va dire. On va aller aussi du côté du salon du cheval. Mais pour débuter, on va parler animaux et politique.
Voilà, avec le collectif Animal Politique. Et nous sommes avec Lucille Pégé, qui est coordinatrice du projet Animal Politique. Lucille, bonjour.
Oui, bonjour.
Merci d'être avec nous, en tout cas. Alors, pas moins de 26 associations de protection animale se sont pour la première fois réunies au sein de ce collectif intitulé Animal Politique. Alors, on imagine bien que il y a un lien, bien sûr, avec la politique et avec les élections présidentielles qui vont avoir lieu dans quelques mois. Alors, quel est le but de ce collectif?
Alors, tout à fait, c'est effectivement en lien avec les élections qui arrivent en 2017. Je vais me permettre de recontextualiser rapidement. En fait, c'est un projet qui a été initié en janvier 2016 par les députés Laurence Abeille et Geneviève Gaillard.
Qui se sont engagées dans la protection animale, hein, oui.
Absolument. Elles ont proposé donc à 26 organisations de protection animale de se fédérer pour mutualiser leur expertise. Et donc, dans un premier temps, nous avons organisé un colloque à l'Assemblée nationale en juin dernier, donc en présence d'éthologues, de philosophes, de juristes, de lanceurs d'alerte. Et donc, ça a rencontré un vif succès, nous encourageant à poursuivre la démarche. Et c'est après ça que nous avons organisé des rencontres régulières pour fonder le collectif Animal Politique, qui donc est effectivement destiné à répondre au décalage entre la préoccupation des Français pour la condition animale et le manque de présence, en tout cas, de cette question dans l'engagement politique.
Et oui, dans les programmes, justement. Alors, on voit bien on l'a vu au sein d'un même parti politique, on a déjà du mal à s'entendre. Alors, comment avez-vous réussi à fédérer toutes ces associations, ces 26 associations des fois, s'entendent pas sur le terrain?
Oui, alors c'est vrai que lorsqu'on m'a invité à coordonner ce projet, j'ai pensé à cette question. Je serais peut-être délicat de faire cohabiter certaines structures qui ont des positions différentes. Et en réalité, ces organisations ont des très nombreux points de convergence. Elles souhaitent toutes protéger le monde animal des souffrances que l'humanité lui inflige. Donc ça, c'est vraiment un point commun de toutes les structures. Donc c'est vraiment la base aussi de ce qui se trouve dans le manifeste. Et par ailleurs, ces organisations avaient le sentiment, avec les nombreux adhérents, donateurs, sympathisants qu'elles ont, qu'il était important de montrer, d'avoir de la visibilité en politique et d'impacter sur les décisions, justement.
Alors, ce collectif a publié un manifeste qui est en fin de compte une liste de 30 propositions qui concernent à la fois, alors il y a les animaux d'élevage, de compagnie, de spectacle, les animaux sauvages. Quelles sont les propositions les plus fortes que vous faites pour les politiques?
Alors, ça dépend un petit peu des domaines, mais par exemple, par rapport à l'élevage, la première idée, ce serait de favoriser l'élevage en plein air, d'interdire les cages, et puis aussi de mettre fin aux pratiques douloureuses, comme la castration à vif, l'écornage, le gavage. Voilà, donc ça, c'est vraiment ce que j'évoquais tout à l'heure, ce sont les bases.
Donc c'est vraiment des propositions très concrètes, c'est ce que vous proposez aux politiques.
Exactement. En fait, c'est vraiment donc dans ce manifeste, donc qui comporte 6 thématiques, comme vous l'avez évoqué, ce sont à chaque fois des propositions qui sont concrètes, réalistes et immédiatement applicables. Donc ça, c'est vraiment des propositions qu'on fait aux candidats, voilà, qui peuvent appliquer très très rapidement. Et puis qui sont la base, voilà, d'interdire les souffrances et mettre ça en pratique douloureuse, c'est vraiment le minimum requis. Et puis par rapport à l'expérimentation animale, par exemple, l'idée serait de créer une autorité indépendante dédiée au développement et à la promotion de méthodes de remplacement, donc de méthodes alternatives, donc pour éviter d'utiliser des animaux.
D'accord. Et est-ce que vous avez déjà envoyé votre manifeste aux partis politiques? Et si oui, est-ce que vous avez des retours?
Oui. Est-ce qu'ils réagissent?
Alors, oui, ils réagissent très très bien d'ailleurs. Donc nous avons déjà rencontré Yannick Jadot qui a signé l'intégralité du manifeste. Et puis nous avons rencontré également Jean-Luc Mélenchon qui va lui en prendre connaissance et puis revenir vers nous prochainement. Et il y a aussi des candidats qui nous ont approchés. Voilà, donc là pour l'instant, l'information n'est pas officielle, mais nous allons la divulguer très prochainement. Mais c'est vrai que nous avons eu la chance d'avoir vraiment des candidats qui nous ont contactés.
Mais est-ce qu'il n'y aurait pas aussi une récupération politique?
Oui, voilà, est-ce que ce n'est pas une opportunité pour eux aussi?
Oui, voilà, parce qu'ils peuvent aussi vous s'approcher de vous et puis après...
J'ai envie de dire tant mieux, c'est une récupération politique parce que c'est exactement ce qu'on veut. On veut effectivement que les politiques s'emparent de cette question qui est aujourd'hui fondamentale.
Ouais, mais Lucie, vous savez que parfois les promesses des politiques ne sont pas tenues.
Ah mais je peux vous assurer qu'on va, on va les suivre et puis on va s'assurer qu'ils tiennent leurs promesses. On va être là pour ça. On va faire une veille politique justement. Et je ne sais pas si vous connaissez le site Animaux et Politique d'L214 qui très régulièrement donc fait une veille de l'actualité politique concernant le monde animal. Et donc voilà, on va être très très vigilants, ne vous inquiétez pas. On va être là.
Et vous pensez que tous les partis vont vous approcher ou seront intéressés?
Alors, s'ils ne nous approchent pas, on les approchera de toute façon, quoi qu'il arrive. Mais oui, pour l'instant, c'est vrai qu'il y a plusieurs quand même partis qui commencent à être intéressés par la question. Plusieurs partis qui ont déjà, par exemple, des commissions, des secrétariats, des groupes de travail qui sont liés à la condition animale.
Oui, ce qui est nouveau quand même.
C'est nouveau.
Ce qui veut dire quand même qu'il y a une évolution positive concernant la cause animale et que maintenant, l'animal s'invite aussi dans le débat politique.
Oui. Oui, tout à fait. C'est vrai que, par exemple, en France, on était un petit peu en retard par rapport à cette question. Et ces deux dernières années, la question a vraiment émergé dans les médias et donc dans le champ politique. Quand je disais qu'il y avait plusieurs secrétariats, commissions qui s'étaient créées à ce sujet, c'est vrai que c'est assez inédit. Mais comparé à d'autres pays, par exemple, moi, je sais pas, j'imagine que vous savez qu'un parti animaliste a été lancé il y a quelques jours. Mais ça existe, par exemple, depuis plusieurs années en Grande-Bretagne, en Espagne, au Portugal, en Autriche. Aux Pays-Bas, où il y a déjà deux députés, deux sénateurs, un député européen, ce qui n'est quand même pas rien pour impacter dans les décisions politiques. Et puis en Belgique, il y a carrément un ministère de la condition animale. Ouais. Ça, c'est vraiment voilà. Donc nous, on a envie de quelque chose comme ça. Ça fait partie d'ailleurs des propositions qui sont faites dans la partie animale et société, c'est de créer un organe autonome et indépendant du ministère de l'Agriculture. Donc, que ce soit un ministère de la condition animale, un secrétariat d'État ou une EAI, il faut vraiment un organe spécifique.
Écoutez,
pour rattraper le retard.
Merci. Merci, Lucie. Merci. Écoutez, on va suivre ça de près pour
et
voir
on
si.
On se retrouvera avant la présidentielle pour voir ce que ça donnera.
Absolument,
voilà,
merci.
Si les candidats vous suivent ou pas, et voilà, et si vraiment l'animal est aussi avec d'autres sujets, bien sûr, au cœur des débats politiques. Merci, Lucie.
À très bientôt.
Au revoir.
Madame, au revoir.
Le 32-16, n'hésitez pas à nous appeler. Que pensez-vous de cette initiative, pour le moins intéressante? En tout cas, c'est vrai que ça va dans le sens du bien-être des animaux, Laetitia,
voilà,
du respect des animaux.
Et ça fait bouger. Et puis, comme je disais, quand même, 26 associations qui se mettent d'accord.
Ouais, ça, c'est cool.
Ça, il faudrait que les politiques, dans les mêmes partis, prennent note quand même.
On prenne de la graine.
Oui, voilà.
Allez, 7h18, on revient dans un instant, c'est RMC, c'est le week-end des experts. On va s'intéresser aux chevaux avec le Salon du Cheval, actuellement au Parc des Expositions de Paris-Nord Villepinte. C'est jusqu'au 4 décembre. On en parle dans une minute. A tout de suite.
RMC, vos animaux. RMC jusqu'à 8h, vos animaux. François Sorel, Laetitia Barlerin.
Voilà, 7h20. Le retour du week-end des experts, les animaux, avec notre veto, Laetitia Barlerin. Dans 10 minutes, la météo et les infos. Mais auparavant, Laetitia, direction le Salon du Cheval.
Voilà, et nous sommes avec Élise Rousseau, qui est auteure de Tous les chevaux du monde et le guide des chevaux d'Europe aux éditions de Delachaux et Niesley. Bonjour Élise.
Bonjour,
bienvenue. Bonjour. Alors, c'est vrai que le Salon du Cheval est l'occasion de voir la diversité des chevaux. Je crois que vous en revenez parce que il a ouvert hier au Parc des Expositions de Paris-Nord-Villepinte. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de races différentes de chevaux, vraiment plus qu'on ne pense. Peut-être, avant de parler des races, peut-être revenir sur la domestication du cheval. Où et quand a été domestiqué le cheval ?
Alors en fait, il y a différentes hypothèses. On pense actuellement qu'il aurait été domestiqué environ 4000 ans avant Jésus-Christ, en fait, dans différents foyers, notamment l'Ukraine, le nord du Kazakhstan et l'Asie centrale.
Oui.
Donc voilà, c'est une domestication finalement assez récente par rapport à d'autres...
Oui, par rapport aux chiens, par exemple.
Voilà, exactement. Hein. Exactement. Mais par contre, au niveau des races domestiques, la diversification et l'essor des races même, en fait, connaît vraiment son expansion à la fin du 19e et au début du 20e siècle. Donc ça, c'est encore plus récent finalement.
Alors justement, combien existe-t-il de races dans le monde, voire en France ?
Alors, dans le monde, on compte plus de 540 races de chevaux, donc ce qui est
540.
Et oui,
c'est beaucoup plus que les races de chiens. Et pourtant, ouais, on a l'impression qu'il y a plus de races de chiens que de races de chevaux.
Et oui, mais en chevaux, on parle toujours un peu des mêmes. Il y en a bien 540, et on peut même pousser à 567 en fait si on compte certaines populations qui sont pas vraiment à proprement parler des races.
Oui.
Et en France, on a rien qu'en France, en fait, on a 22 races en fait de chevaux reconnues, et encore 3 autres en fait qui sont des populations pas encore reconnues en fait.
Donc, quels sont
même chez nous.
Oui, même chez nous, on en a beaucoup, hein.
Ouais.
Mais quels sont les chevaux les plus représentés dans le monde, et est-ce que c'est par exemple les chevaux de trait ou plutôt les chevaux de course?
Non, pas du tout. Les chevaux de trait, en fait, c'est ni l'un ni l'autre, en fait. Les chevaux de trait, il y en a que 11% environ dans le monde, hein. C'est pas énorme. Les plus représentés, finalement, c'est les poneys ou petits chevaux. Les chevaux qui font une taille inférieure à 1m48, en fait. Ils correspondent à environ 43% des races de chevaux dans le monde.
Et pourquoi ?
Parce que finalement, à l'échelle mondiale, vous voyez, par exemple, je pense au cheval mongol, c'est un petit cheval, en fait. Tout ça, tous les chevaux asiatiques sont pas très grands, souvent. Nos très grands chevaux sélectionnés pour une grande taille, c'est pas forcément la norme ailleurs.
Alors, j'imagine que comme pour toutes les races domestiques, certains chevaux sont menacés d'extinction.
Oui, alors là, c'est assez énorme. Il y a une perte de biodiversité qui est.
On parle de biodiversité pour les animaux domestiques.
On parle de biodiversité domestique, en fait.
Oui.
Et effectivement, là, par exemple, en 2015, il y a la dernière population équine qui vient de s'éteindre. En fait, c'est le barbe d'Abaco. En fait, c'est un cheval des Bahamas dont la dernière jument est morte en 2015. Moi, quand j'ai écrit mon livre, la race existait toujours et ça y est, elle a disparu. Et en fait, au fil de mon enquête, j'ai compté que sur 540 races de chevaux, 287 sont menacées dans le monde.
Oui, c'est plus de la moitié. Oui.
Donc, ça fait effectivement 53% des races de chevaux du monde qui sont menacées. Et il y en a 146 en fait, qui ont moins de 1000 individus, donc vraiment, ça devient vraiment, vraiment grave pour eux, quoi.
Bah, après, ce sont des races qui ont été sélectionnées par l'homme. Est-ce que c'est important de les sauver ?
Alors ça, c'est vraiment, comment dire, c'est vraiment une question qu'on peut se poser. Pour certaines personnes, c'est pas si grave. C'est même une évolution un peu naturelle et inévitable. Alors pour moi, c'est quand même plus embêtant. Enfin, on est beaucoup aussi à penser que c'est quand même embêtant que ces races disparaissent, parce que finalement, quand une race disparaît, c'est tout un pan génétique de l'espèce cheval qui disparaît. Sans compter qu'on perd aussi en fait toute la culture en fait à laquelle appartient cette race. Donc en fait, un patrimoine culturel domestique. Par exemple, je pense en France au trait poids de vin, qui est une de nos races de trait qui se porte le plus mal, qui a un très beau cheval magnifique.
Oui.
Bah, le jour où il disparaît, en fait, c'est toute l'histoire de l'élevage mulassier en France qui disparaît avec lui. C'est d'un point de vue patrimonial, en fait, c'est quand même une énorme perte aussi.
Alors, qu'est-ce que vous connaissez toutes les races du monde, quels sont les chevaux que vous trouvez les plus étonnants?
Alors, il y en a pas mal des surprenants. Alors, moi, je pense à un qui s'appelle le Transbaïkal, qui vit en Russie, donc, comme son nom l'indique, en Transbaïkalie, qui est un cheval frisé, qui a une marque à l'épaule, qui résiste.
Un cheval frisé.
Comme un caniche.
C'est ça. Et qui résiste au froid, parce qu'il habite, vraiment en Russie, dans des endroits où l'hiver est très froid. Donc, lui, il est assez étonnant. Il en reste très peu aussi au monde, et c'est une race qui est pas connue du tout. Alors, une race encore moins connue, peut-être, c'est le Moll aux États-Unis. Dans l'Idaho, en fait, qui présente régulièrement deux petites bosses sur le front.
Des bosses sur le front?
Oui, tout petit, ça se voit pas beaucoup, mais donc ça, c'est...
C'est des licornes.
c'est ça, oui.
C'est des descendants des licornes.
elles sont toutes petites. Il y a aussi le Marwari, peut-être en Inde, dont vous avez peut-être entendu parler, qui a les oreilles recourbées un peu en forme de cœur.
Oui. Il y a le Curly aussi, moi j'aime bien, qui est le cheval dit hypoallergénique.
Eh ben, il est hypoallergénique. Alors, pareil, comme le Transbaïkal, parce qu'en fait, il est frisé. C'est toutes ces races de chevaux frisés. En fait, il n'y en a que 5 dans le monde, hein. C'est pas beaucoup. Donc, il y a le Curly, évidemment, qui est le plus connu parce qu'il est américain. C'est sans doute aussi pour ça qu'il est le plus connu. Tout ça, c'est des races, en fait, qui sont rares aussi, hein, ces chevaux au poil frisé. Et effectivement, en fait, la texture du poil et la peau, en fait, sont particulières. Et du coup, ça, ils génèrent pratiquement pas d'allergie chez les personnes susceptibles d'être allergiques, voire, en fait, pas du tout. Et donc, du coup, ça permet à certains cavaliers qui avaient renoncé à l'équitation de recommencer grâce à ces chevaux frisés qui sont très jolis, très amusants et ont le poil très, très doux, en fait.
Très bien, Élise. Eh bien, nous viendrons vous voir au Salon du Cheval.
Voilà. Donc, le Salon du Cheval qui a lieu actuellement au Parc des Expositions de Paris-Norville-Pinte et ce jusqu'au 4 décembre.
Voilà, on a encore quelques jours pour y aller.
Merci, Élise. Bon dimanche. Au revoir.
Au revoir.
Voilà, et après Élise, on va retrouver dans un instant la météo et les infos de 7h30, Laetitia. Et puis pour notre deuxième partie dédiée aux animaux, tout à l'heure on s'intéressera aux mammifères qui parfois sont étonnants. Et notre invité Jean-Louis Artenberger nous racontera quelques petites histoires insolites de tirer de son livre « Depuis quand les cachalots ont le melon ?» Ça, c'est rigolo. Et puis,
on lui posera la question, d'ailleurs.
Et puis, on reviendra sur cette histoire sordide d'ours qui s'est retrouvé en boîte de nuit simplement pour amuser en fait les clients. C'est une histoire incroyable. On aura le récit tout à l'heure avec notre invité. 3216 animaux@rmc.fr, météo et info. Et on est de retour. À tout de suite.
Rejoignez les experts animaux sur leur page Facebook « Vos animaux sur RMC ».
Là, tiens, attention, c'est une question flash qui nous attend. Est-ce que vous êtes prête à répondre en moins de 2 minutes à la question de Marguerite?
Je suis prête.
Voilà, Marguerite nous a joint par mail animaux@rmc.fr. J'ai 4 poules dont une passe son temps, Laetitia, dans le nichoir isolé des autres. Que faire?
3 poules,
pardon. Excusez-moi.
Il me semble bien que j'avais lu ça. Alors, 3 poules. Donc, il y en a 2 contre 1, c'est ça, peut-être?
Oui, c'est ça.
Alors, d'abord, vérifiez une chose, c'est que votre poule n'est pas malade. Parce que tout animal malade s'isole, bien entendu. C'est une proie, donc elle doit s'isoler dans un coin si elle est malade. Donc, amenez-la chez le vétérinaire pour voir s'il y a quelque chose qui cloche ou pas. Et puis, vérifiez aussi si elle est dans le nichoir, si elle ne couve pas les œufs. Parce que même s'il n'y a pas de coque, elle peut vouloir couver. C'est-à-dire qu'une poule pond des œufs et au bout d'un certain temps, les couve.
D'accord.
Par exemple, 1 semaine. Mmh. Donc peut-être qu'elle est en train de couver tous les œufs. Donc regardez s'il n'y a pas des œufs sous elle. Et puis, savoir aussi que les poules
ont... On peut les voir comme ça sous elle
vous la dérangez.
D'accord.
Alors, il y en a qui piquent quand même, parce qu'ils ne veulent pas qu'on les dérange, mais vous pouvez la déranger. Mmh. Et puis, il faut savoir que les poules ont une organisation hiérarchique, linéaire. Il y a une dominante et des dominés. Et peut-être qu'il y a une coalition entre les deux poules. Les deux poules qui sont au-dessus d'elles, justement. Et peut-être est-elle le souffre-douleur des deux autres poules. Oui. Et dans ces cas-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous prenez une quatrième poule.
Une quatrième.
Pour qu'il y ait une coalition entre deux et deux.
Et voilà.
Vous voyez, ça c'est pas mal non plus. Puis augmenter l'espace aussi, parce que peut-être aussi qu'elles sont dans un espace trop petit. Mmh. Faites-les aller dans l'herbe, dans le jardin, etc. pour qu'elles puissent s'isoler chacune et diminuer un peu le stress qu'il y a entre les 3 poules.
Voilà, le 3216, animaux@rmc.fr. N'hésitez pas à nous joindre ce dimanche matin. À tout de suite.
RMC, c'est au 32-16,
45 centimes la minute,
et au 7-32-16,
65 centimes par envoi, plus prix du SMS.
RMC, 6h-8h, vos animaux. François Sorel, Laetitia Barlerin.
Voilà, 8h moins 25, c'est RMC et c'est le week-end des experts avec tout à l'heure, dès 8h, Jean-Luc Moreau qui nous rejoindra, 2h dédiées à l'automobile. Je sais que vous attendez ce rendez-vous et Jean-Luc sera fidèle au poste, bien sûr. Avec l'essai de la semaine, ça sera la nouvelle Toyota CHR qui est le SUV urbain hybride de Toyota. Notre bon plan auto, paraît-il, Laetitia, qu'il faut se laver les mains après avoir fait le plein. On verra pourquoi. Bon, c'est vrai que j'imagine que c'est pas...
J'ai toujours des lingettes, moi.
C'est pas très hygiénique.
Bah, j'ai toujours des lingettes désinfectantes avec moi.
Oui, c'est vrai. Mais il faut toujours avoir des lingettes. Et puis, c'est vrai, se laver les mains après avoir fait le plein. On évoquera aussi cette fermeture des voies sur berge qui, vous le savez, provoque la polémique actuellement à Paris. Et puis, entre autres, on parlera d'assurance et on retrouvera l'actualité de la semaine avec automoto.com à partir de 8h. Donc, l'automobile sur RMC. Mais d'ici là, bien évidemment, on poursuit notre rendez-vous animaux. Laetitia, on va maintenant revenir sur cette histoire sordide d'ours qui est allé en boîte de nuit pour animer et amuser un peu les clients de cette boîte de nuit. C'était il y a quelques jours de cela.
Et nous sommes avec Daniel Jacob de l'association Aves France. Aves France, c'est une association qui fait partie d'un collectif contre les montreurs d'ours, justement. Daniel, bonjour. Bienvenue.
Bonjour.
Bonjour.
Alors, c'est vrai, ça a eu lieu le week-end dernier dans une boîte de nuit qui s'appelle La Scala près de Rennes, qui a organisé une soirée cirque avec la présence d'animaux, dont un ours muselé. Alors, comment un ours muselé se retrouve dans une boîte de nuit? Est-ce que vous avez la réponse?
Tout à fait. la réponse, déjà, c'est légal. On ne peut pas, il n'est pas interdit de faire venir des animaux sauvages dans une boîte de nuit. Donc, même si c'est pas leur place.
C'est légal si la personne a. C'est légal si la personne a un certificat de capacité, etc.
Bien entendu, il faut que le propriétaire de l'ours et le montreur d'ours, comme nous on les appelle, aient un certificat de capacité. Et en général, notre association fait vérifier par la DDPP, l'ancienne DSG, que le montreur d'ours a bien est en règle en termes de documents, capacités et propriétés de l'animal.
Mais ce qui est étonnant, c'est que vous parlez de montreur d'ours. Ça veut dire que c'est un métier qui existe encore aujourd'hui en France. C'est possible, ça?
Oui, bien sûr. Il y a, en fait, les montreurs d'ours, ce sont des personnes qui travaillent avec le cinéma, notamment quand il y a eu le film de Jean-Jacques Hano, L'Ours, et bon, dans d'autres films aussi, et... En complément, ils font des spectacles d'ours, ce qu'on appelle nous montreurs d'ours, notamment dans les fêtes médiévales et dans les fêtes de Noël.
Alors, Daniel, il faut bien parler en face du téléphone, s'il vous plaît, parce que de temps en temps, on vous perd.
D'accord.
voilà. Mais alors, si j'ai bien compris, ils font ça pour arrondir leur fin de mois, c'est ça? C'est une question d'argent, bien sûr.
Ah, c'est un revenu.
Oui, ils se considèrent comme des artistes.
Ouais, mais un artiste qui montre un ours dans une boîte de nuit, c'est pas, où est le côté artistique dans cette histoire?
Ça, c'est sûr.
C'est pas le côté artistique, c'est le côté, attractif pour le public, comme dans une fête médiévale. On fait venir un montreur d'ours parce que ça va attirer du monde.
Bah, c'est vrai qu'il y a de plus en plus de fêtes médiévales, et c'est vrai qu'il y a de plus en plus d'animaux dans ces fêtes médiévales. Mais que vous, l'association, reprochez-vous à ces montreurs d'ours, parce que c'est vrai qu'on peut pas dire un autre nom, est-ce que vous soupçonnez de la maltraitance?
Alors, il y a différents cas. Il n'y a pas de maltraitance en elle-même pendant le spectacle. Par contre, on sait très bien, et je pense que vous, en tant que vétérinaire, vous devez savoir aussi, que pour, entre guillemets, dresser des ours, il y a forcément, à un moment donné, contrainte ou privation pour obliger l'ours à faire certaines choses.
C'est sûr.
C'est clair.
Et comment
des experts.
Et voilà, alors justement, comment ils tressent, entre guillemets, ces ours?
Il y a la privation de nourriture. Là, on ne sait pas trop finalement comment est dressé l'ours parce qu'on n'est pas, on n'a jamais pu assister à un dressage d'ours. Mais bon, il y a forcément la privation de nourriture. On voit par exemple un des montreurs d'ours pour faire travailler son ours, il lui donne en permanence des chamallows. Et donc l'ours attend son chamallow. Il sait très bien que s'il fait bien son spectacle, il va avoir des chamallows.
Ouais. En plus, donner des chamallows à l'ours, je ne sais pas si c'est au niveau diététique l'idéal. Oui.
Il paraît que c'est son vétérinaire qui lui a dit qu'il pouvait lui donner des chamallows.
Ah, c'est pas moi. Hein.
Laetitia, vous validez le chamallow pour l'ours ou pas?
Moi, je suis une. J'adore les chamallows, j'en mange tous les jours, mais
je fais pas des chamallows tous les jours.
Oui, oui, je ne fais pas de numéro d'ours, c'est
non,
sûr.
Non, ça je vous le confirme.
Mais
même si vous allez en discothèque régulièrement.
Voilà, je vais en discothèque, je mange des chamallows, mais je ne suis pas un ours.
Mais vous n'êtes pas muselé quand vous allez en boîte de nuit, rappelons-le.
Mais d'où viennent ces ours?
Alors, il y a différentes provenances. Il y a un couple de dresseurs d'ours qui s'appelle les Polyakov, qui viennent du cirque de Moscou. Donc, je pense qu'ils ont récupéré leur ours là-bas. Et ensuite, ils l'ont fait reproduire. Mmh. C'est-à-dire qu'il y a eu des certains ours qui sont assez complaisants à ce niveau-là. Bon, il y a des ours qui viennent aussi de zoos. Les montreurs d'ours achètent des ouais. ours dans certains zoos.
Et il y a, normalement, c'est interdit, attendez.
Oui, oui, oui. Bien sûr, il y a beaucoup de choses d'interdit. Il est interdit, normalement, d'avoir un ours. Enfin, il n'est pas interdit, mais la réglementation oblige, pendant le spectacle, que l'ours, qu'il y ait d'abord une présentation de l'animal au niveau éducatif, c'est-à-dire qu'il y ait une présentation éducative de l'animal, ce qui n'est absolument pas le cas. On demande... Les ours, normalement, quand ils sont transportés dans des cages, ils doivent au moins avoir un endroit où ils peuvent se détendre dans la journée. On a eu l'occasion, plus d'une fois, d'aller voir des spectacles de montreurs d'ours, et ce n'est pas le cas. Donc, vous voyez, il y a plein de réglementations qui n'est pas respectée.
Et vous vous demandez quoi, un changement de loi?
Ah, on voudrait qu'il y ait, vous savez, le problème des montreurs d'ours, c'est le même qu'avec les cirques, avec les animaux.
Oui, on en a parlé.
Ce genre... Il faudrait que ce genre de spectacle soit interdit totalement par une législation. On voit bien que l'opinion publique actuellement est plutôt défavorable à ce type de spectacle. Les villes commencent à prendre des arrêtés interdisant la présence de cirques avec animaux sauvages. En Belgique, il y a eu une loi qui a été passée il n'y a pas très longtemps qui interdit les cirques avec animaux sauvages. Donc on espère que la France fera la même chose prochainement.
Alors cette histoire a pris quand même une certaine ampleur jusqu'à ce que en fait le patron de la boîte de nuit réagisse et dise en fait qu'il s'excuse de ce qui s'est passé et qu'il ne reproduira plus ce genre de choses. Donc il n'autorisera plus en fait l'arrivée d'animaux pour animer des soirées, c'est ça?
Bah oui, mais enfin, c'est le minimum.
Exactement.
Il a vu quand même qu'il y a eu une pétition qui a été faite en ligne et qui est contre lui. Quoi.
Non, mais on a l'impression qu'il n'était pas au courant, donc ça paraît un peu bizarre. Quand
oui.
Ah, en fait, au niveau de l'association, on a été informé après. C'est-à-dire que c'est les réseaux sociaux qui nous ont informés par le biais de militants qui nous ont envoyé des mails. Et donc, on a appris donc cette présence d'ours. Et donc, tout s'est fait par les réseaux sociaux. Et nous, on est arrivé, on a constaté derrière qu'il y avait cet ours qui était dans une boîte de nuit. Mais c'est pas la première fois.
Ouais.
Pas dans cette boîte de nuit. Mais c'est déjà arrivé qu'il y ait des animaux, et notamment un ours, dans une boîte de nuit. Ça date de l'année dernière, je crois.
Ouais.
Là, le spectacle avait été annulé. C'est-à-dire que la réaction de nos associations et des internautes avait fait qu'on avait pu faire arrêter le...
D'accord. Bon, en tout cas, espérons que tout cela fasse un peu jurisprudence, comme on dit,
qu'on
ne se retrouve plus avec des animaux sauvages comme ça dans des boîtes de nuit pour animer des soirées.
Et puis même, des montreurs d'ours dans des fêtes.
Évidemment.
C'est comme vous dites, c'est pas leur place. Et on espère vraiment que la législation va évoluer.
Il y a tellement d'autres choses à faire dans une boîte de nuit pour s'amuser que de voir des ours ou des animaux sauvages. Enfin, franchement.
Et même sur des fêtes médiévales.
Hein. Évidemment. Bon, Laetitia, il est 8h moins quart. Merci beaucoup, Daniel Jacob.
Voilà, je vous rappelle que vous êtes de l'association Aves France.
On a encore un petit quart d'heure à passer ensemble, Laetitia. On va revenir dans un instant. Et là, on va un petit peu aller sourire avec notre invité, Jean-Louis Artaud-Merger, qui nous rejoint dans un instant. Vous allez voir, les mammifères sont parfois étonnants. Il a quelques petites histoires à nous raconter. A tout de suite, c'est RMC.
RMC, 6h-8h. Vos animaux. RMC jusqu'à 8h. Vos animaux. François Sorel, Laetitia Barlera.
Merci de nous rejoindre. Peut-être venez-vous de brancher RMC. Sachez que vous êtes bien dans ce rendez-vous dédié aux animaux que nous vous proposons chaque samedi 6-8. Et puis juste après la météo et les infos, ce sera l'automobile avec Jean-Luc Moreau. Laetitia Barlerin toujours à mes côtés. Laetitia, on va parler de mammifères maintenant qui peuvent parfois être étonnants.
Oui, et nous sommes avec un paléontologue spécialiste des mammifères qui s'appelle Jean-Louis Artenberger, qui est auteur de « Depuis quand les cachelots ont le melon » aux éditions Belin. Jean-Louis, bonjour, merci d'être avec nous.
Bonjour, à vos auditrices et auditeurs.
Voilà, alors vous avez donc dans ce livre compilé des informations insolites, des surprises un petit peu sur les mammifères. Alors, la première question est dans le titre, depuis quand les cachelots ont le melon?
Ah ben, en plus, c'est un melon qui pèse 7 à 8 tonnes. Pour un cachalot, ça fait à peu près 40 tonnes. Et c'est cet énorme nez qui repose sur le toit crânien de l'animal et qui est son studio d'enregistrement et d'émission des ondes sonores. Le cachalot, il émet deux types d'ondes sonores, des clics. Alors ça, c'est sa conversation.
On les entend.
On les enregistre, on sait qu'ils sont très variés et ils discutent avec ses copains, grondent ses petits ou avertit un mâle que s'il s'approche trop, il lui donnera un coup de melon.
C'est le cas de le dire.
Et puis par ailleurs, il pratique l'écholocation, c'est-à-dire qu'il émet des ultrasons qui se répercutent sur les obstacles de son environnement, qu'il réenregistre dans son cerveau, ce qui lui permet de voir en 3D la situation, tout le paysage sous-marin dans lequel il évolue. C'est pour ça qu'il peut très aisément plonger à des profondeurs où règne l'obscurité, à plusieurs milliers de mètres de profondeur, y chasser les calmars dont il se régale. Et c'est ce melon qui était l'objet de convoitise des chasseurs de cachalots, en particulier au 19e siècle, ce qui a failli entraîner leur disparition. Parce que de ce melon, on extrayait ce que l'on appelle l'ambre blanc. Alors, c'était une huile qui était dont on pouvait se servir pour éclairer les lampes. Et puis en plus, ça terminait aussi dans les bocaux des apothicaires. Et à ce moment-là, c'était paré de vertus inimaginables, bien sûr.
Jamais vérifié, bien sûr.
Mais comme c'était rare, c'était cher, donc...
Ça avait beaucoup de succès.
Alors, beaucoup de succès.
Dites-moi, bientôt, c'est Noël, certains parents pensent à offrir un animal à leur enfant. Alors, il faut savoir que l'animal cadeau existe aussi dans la nature, ce qui est incroyable.
Oui, mais ça, on en reparlera après. Parlons d'abord. Alors, moi j'ai, si vous voulez, à propos... des parents qui souhaitent acheter un petit animal, c'est très, très louable, etc. Mais d'abord, surtout s'il s'agit d'un petit chat ou d'un petit chien, qu'ils s'assurent que l'enfant est à jour de ses vaccinations, en particulier le tétanos. Parce qu'il ne faut pas qu'un petit conflit se termine en tragédie.
Oui, oui. Voilà. Bon, alors, pour revenir à nos mammifères.
Oui. Pour revenir aux mammifères, alors, si... l'on habite dans une maison où il y a un jardin, un chat, un chien, ça pose pas de problème. Mais si on habite un appartement, si on offre un petit chien à son fils ou à sa fille...
Mais dites-moi, Jean-Louis, parlez-nous des mammifères.
Ah, des mammifères.
Écoutez de mon émission parce que... l'animal cadeau.
Jean-Louis, il faut boire un café.
Ah, parce que ça, nous, on en parle de l'animal cadeau. Vous inquiétez pas, il n'y a pas de problème.
Oui, d'autant qu'on peut aller à la SPA.
Jean-Louis, je sais. Mais ça, on en parle tout le temps. Alors, moi, je veux savoir dans la nature, l'animal
cadeau. Des petits singes qui offrent aussi des petits rats à leurs enfants.
Ah bon?
Oui.
Petits singes.
Des petits irax, des rats de rocaille en Afrique. Et les enfants jouent pendant quelque temps. Et alors très souvent, on pourrait imaginer que ça se termine mal.
Oui, qu'ils pourraient les manger ou quelque chose comme ça. Pas du tout.
C'est pour jouer.
Ça a été observé à plusieurs reprises. Ces petits singes, les enfants s'amusent avec et le cajole, plus ou moins, et puis deux ou trois jours après, ils le libèrent. C'est vraiment...
Tiens.
Enfin, c'est un aspect très sympathique. Et d'ailleurs, nous aussi nous sommes, parce que les singes sont des animaux très sympathiques, et nous aussi, hein, puisque nous sommes des singes, après tout. Et ça a été observé à plusieurs reprises.
Mais c'est dingue, donc le singe arrive à capturer
ça, facile.
Et hein. Après, il l'offre à sa progéniture, c'est dingue.
À ses petits.
C'est fou, ça.
Parce qu'il y a une gestion collective, souvent, dans ces groupes de singes. Les mamans ont un ou deux petits, et puis il y a une gestion collective. Il y a des nourrices, chacun a un rôle. Les mâles sont souvent écartés parce que c'est eux quand même qui sont les plus dangereux pour les enfants. Hein. Ça c'est une parenthèse désagréable.
Puisqu'on est dans les histoires de singes, vous dites que chez les orang-outans, les joufflus ont la côte. Ça veut dire quoi?
Alors ça c'est... Eh bien, c'est une observation, parce que, si vous voulez, ils sont tellement rares maintenant qu'on ne les perd pas de vue. Il y a des caméras partout.
Oui, puis ils ne sont pas très rapides non plus.
Ils ne sont pas très rapides, et puis bon, ils sont très surveillés parce qu'on sait que malheureusement, ils sont en voie d'extinction. Et on a constaté qu'il y a dans un groupe de singes qui vit dans un parc en Malaisie, qu'il y avait deux types de singes, des gros joufflus et des mâles. Gros joufflus et d'autres mâles beaucoup plus ordinaires. Et d'apparence, je dis bien d'apparence, les jeux sexuels auxquels ils se livrent sont aussi nombreux pour les uns que pour les autres. Il n'empêche que quand on fait des marquages génétiques, on s'est aperçu que c'était le gros joufflu du coin.
Le gros joufflu
qui faisait le plus de petits.
Ah oui,
c'était 50%.
C'est le Casanova, quoi.
C'est le Casanova.
Eh bien, non, mais c'est-à-dire que, d'une certaine façon, les femelles, lorsqu'elles sont... elles veulent s'amuser, choisissent indifféremment les uns ou les autres. Mais lorsqu'elles savent qu'elles sont fertiles, bien, elles choisissent plutôt le joufflu.
Ah oui,
et
d'accord.
Voilà.
Ah oui, donc il y a une espèce de... Elles sont un petit peu volages, quoi.
Oui.
Ça rigole
elles
pas.
Elles sont très sensibles
aux joufflus. Alors, pour finir, Jean-Louis, pourquoi les zèbres sont zébrés?
Ah, ben ça, il y a un gradient. On a pu constater, c'est lié, il faut absolument qu'ils soient au frais pour pouvoir courir. Et on a constaté que les zèbres du Cap étaient les zébrures étaient moins denses que plus on va vers l'équateur. Lorsqu'on va vers l'équateur. Et ce qui fait que la température épidermique, on peut dire, du zèbre reste à peu près autour de 29 degrés, alors que chez les autres qui vivent dans les mêmes conditions, elle atteint jusqu'à 35, enfin quand il fait chaud, oui, bien sûr, elle atteint jusqu'à 35 degrés. Donc, c'est pour ça que les zèbres sont toujours guillerés, d'une certaine façon. Ils arrivent à thermoréguler leur
température
avec leurs zébrures. Merci beaucoup, Jean-Louis.
Merci.
Et on retrouve ça à quelques-unes de ces anecdotes dans Depuis quand les cachalots ont-ils le melon? Voilà. Dans toutes les bonnes librairies. Merci beaucoup. On va terminer avec Aliette qui est avec nous. Laetitia, bonjour Aliette.
Oui, bonjour.
Bonjour.
J'ai un gros rhume.
Bah écoutez ça, ça arrive à tout le monde.
Cette saison, on dit.
J'ai carrément la voix cassée, quoi.
C'est pas grave. Alors, racontez-nous, vous avez un caniche, une femelle de 8 ans, qui refuse de manger ses croquettes, c'est ça?
Eh ben voilà, depuis une quinzaine de jours. Bon, là, je viens de subir des opérations, tout ça. Elle est chez une amie à moi, où elle est très bien.
Oui.
Mais elle refuse de manger ses croquettes. Elle ne veut plus les manger. Même un petit biscuit, elle ne veut pas. Enfin, c'est devenu la dame. Bon.
Mais elle mange pas à côté, Aliette.
Elle mange rien du tout.
Elle veut plus rien manger. Alors la dame qui l'a en pension, si on peut dire, elle lui avait donné des bifteks hachés, du jambon. Mais j'ai dit non, c'est pas sa nourriture, parce que moi depuis que je l'ai, elle a la nourriture sèche, elle a des croquettes. Vous devez connaître Laetitia, c'est Ilse RD.
Bon, et... ah, ARD, ah, mais elle est trop grosse, votre chienne.
Ouais, voilà.
bah, alors, Aliette, voilà, c'est l'histoire de l'enfant à qui on donne un steak et qui veut une glace. Parce qu'il en a déjà mangé de la glace.
Et oui, il préfère la glace au steak.
Donc, il préfère la glace au steak. Donc, que fait l'enfant quand il sait très bien, parce qu'en plus, bon, voilà,
oui.
qu'il sait...
On cède à tous ses caprices.
Voilà.
Donc,
voilà, alors, tendrement, il demande à ses parents, « Maman, je veux une glace. » Et maman, elle dit, « Mais non, il faut que tu manges ton steak avant. »« Non, mais je veux une glace. » Et du coup, on lui donne une glace
parce que c'est trop mignon.
Parce qu'il veut pas manger son steak. Donc voilà, Aliette, là, c'est plutôt le steak que préfère votre chien, parce qu'il a goûté au steak. Et en plus, elle est trop grosse. Donc ça veut dire qu'elle se laisse pas mourir de faim. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a pas de problème. C'est juste qu'elle vous tient par le bout du nez ou tient votre ami par le bout du nez en disant non, je ne veux pas manger jusqu'à ce qu'on cède.
Laetitia, si on arrête de lui donner du steak, est-ce qu'elle va revenir aux croquettes?
Un chien ne se laisse jamais mourir de faim.
D'accord. Donc au bout d'un moment, il reviendra aux croquettes.
Parce qu'il ne dirais pas la même chose du chat.
Oui, c'est vrai.
Là, le chat, lui, vraiment, il peut se laisser mourir de faim s'il ne veut pas manger. Ça,
c'est fou, ça,
un problème souvent. Mmh. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire, Aliette? Eh ben, écoutez, vous lui présentez sa gamelle de croquettes le matin. Au bout de 20 minutes, elle en veut pas. On emmène la gamelle, on la met dans le réfrigérateur, on lui resserre le soir. Elle n'en veut pas. On lui resserre le lendemain matin.
Et au bout d'un moment, quand elle aura très faim, elle va craquer.
Alors, à la rigueur, vous pouvez mettre un peu d'eau chaude dans la gamelle pour vraiment
un petit peu plus appétissante. Mais surtout, ne pas craquer, hein, Aliette. Là, c'est vraiment, il faut être concentré.
Ça, faut être têtu que le chien, voire plus.
Bon, Laetitia, on se retrouve dimanche prochain. On sera là, 6h-8h sur RMC.
Bon dimanche à tous, je vous embrasse et très bonne semaine à vous.
Voilà, et dans quelques instants, après la météo, les infos, ce sera l'automobile avec Jean-Luc Moreau, 2 heures dédiées à l'auto. Et vos questions au 32-16, à tout de suite, les amis.
Retrouvez le week-end des experts en podcast sur rmc.fr.